espace2.ch. Espace 2.
Bonjour, rendez-vous avec Florilège des Sentiments, une émission que vous propose Bessa Miftiou et Elina Douni. Une mère et sa fille, toutes deux d'origine albanaise. Bessa Miftiou est écrivaine, passionnée de littérature, et elle a composé autour d'un thème, aujourd'hui le bonheur, le bouquet de textes, de récits, de témoignages que vous allez découvrir avec en contrepoint les musiques, les chants choisis et interprétés par Elina Douni. À deux voix, Bessa Miftiou, Elina Douni tissent aujourd'hui une ode au bonheur.
Florilège des Sentiments, Bessa Miftiou, Elina Douni.
Le bonheur reste le but ultime de la philosophie, des sciences exactes et des sciences humaines. Toutes ces disciplines n'ont d'autre objectif que d'améliorer la vie des hommes, de diminuer leurs souffrances et d'augmenter leurs plaisirs. Bref, d'amener les êtres humains vers une vie bonne, vers davantage de bonheur et moins de tristesse. Comment être heureux dans un monde où tout finit par disparaître? Quel est le prix du bonheur quand la beauté côtoie la mort? Aimer ce qui est éphémère, est-ce de la joie ou de la souffrance? Quel est le rapport entre le bonheur et le manque? Espérer, est-ce être heureux? Infini est le nombre de questions sur la subjectivité du bonheur. À quoi ça sert de philosopher? Se demande André Comte-Sponville. Cela sert à être heureux, à être plus heureux. Il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. Cela ne veut pas dire qu'il faut penser ce qui me rend heureux, mais ce qui me paraît vrai. À charge pour moi d'essayer de trouver face à cette vérité, fût-elle triste ou angoissante, le maximum de bonheur possible. En face d'un aveugle, je me dis: mais cet aveugle, s'il recouvrait la vue, il serait heureux comme un fou, simplement de voir. Et donc moi, me disais-je, moi qui ne suis pas aveugle, je dois être heureux comme un fou, puisque je vois. Et je croyais avoir découvert le secret du bonheur. Je serais désormais perpétuellement heureux, puisque la vue ne me manquait pas, puisque je voyais. J'ai essayé. Cela n'a jamais marché. Parce qu'aussi assurément être aveugle est un malheur, aussi assurément la vue n'a jamais suffi à faire le bonheur de quiconque. Tout le tragique de notre condition se résume là. La vue ne peut faire le bonheur que d'un aveugle. Or, elle ne fait pas son bonheur puisqu'il est aveugle et que la vue lui manque. Elle ne fait pas le nôtre puisque nous voyons et que la vue en conséquence ne nous manque pas. Il n'y a pas de vue heureuse, ou pas de vue en tout cas, qui suffise au bonheur. Le bonheur se voit dans ce cas comme la possession de ce qu'on désire. Mais il y a une autre manière de vivre le désir, non comme manque, ni comme aspiration à une satisfaction future, mais comme pouvoir de jouir du présent. C'est aussi le point de vue de Nietzsche quand il parle d'amor fati, aimer son destin. Amor fati, que cela soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas entrer en guerre contre la laideur. Je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser les accusateurs. Détourner mon regard, que ce soit là ma seule négation. Dans Ecce Homo, Nietzsche reprend la notion amor fati en y ajoutant une touche nouvelle. Ma formule pour la grandeur de l'homme, c'est amor fati. Il ne faut rien demander d'autre, ni dans le passé, ni dans l'avenir, pour toute éternité. Il ne faut pas seulement supporter ce qui est nécessaire, et encore moins se le cacher. Il faut aussi l'aimer.
Thank you.
Quelques auteurs se sont intéressés au thème du bonheur au point de lui consacrer des livres entiers. Le bonheur, de même que l'amour, est la grande affaire de l'homme. Que faire pour être plus heureux? Parmi tant de considérations sur le bonheur, c'est le livre d'Alain, professeur de philosophie, écrivain et journaliste, Propos sur le bonheur, qui m'a particulièrement plu. Il traite du bonheur quotidien, de l'art de vivre. Voilà ce qu'il dit. Si j'avais par aventure à écrire un traité de morale, je mettrais la bonne humeur au premier rang des devoirs. Je ne sais quelle féroce religion nous a enseigné que la tristesse est grande et belle, et que le sage doit méditer sur la mort en creusant sa propre tombe. Il est bien vrai que nous devons penser au bonheur d'autrui, mais on ne dit pas assez que ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, c'est d'être heureux. On devrait bien enseigner aux enfants l'art d'être heureux. Non pas l'art d'être heureux quand le malheur vous tombe sur la tête. Je laisse cela aux stoïciens. Mais l'art d'être heureux quand les circonstances sont passables et que toute l'amertume de la vie se réduit à de petits ennuis et à de petits malaises. Quand le bonheur paraît être dans l'avenir, c'est que vous l'avez déjà. Car espérer, c'est être heureux. L'espoir, source de bonheur ou de malheur selon les auteurs, est surtout le privilège de la jeunesse. À cette jeunesse, Charles Aznavour rend hommage dans sa célèbre chanson « La Bohème », interprétée ici par Lina Douni.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusqu'à sous nos fenêtres. Si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il qu'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut de l'escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre me semble triste, elle est là, sont morts là. La bohème, on était jeune, on était fou. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Les poètes disent que le bonheur brille tant qu'il est loin et inaccessible. Et ce qui attriste les personnes qui cherchent le bonheur autour d'eux, c'est qu'ils veulent l'atteindre sans aucun effort. Jouer d'un instrument ne peut plaire qu'à celui qui a vaincu d'abord certaines difficultés. Écrire également. Et même la lecture peut demander un effort. Il faut du courage pour entrer dans Balzac, Hugo, Flaubert. On commence par s'y ennuyer. Le lecteur paresseux feuillette, il lit quelques lignes et puis il jette le livre. Mais alors, il n'y trouvera pas le bonheur. Il faut une contrainte au commencement et une difficulté toujours. Un travail réglé et une victoire après l'autre, suggère Alain, voilà sans doute la formule du bonheur. Même Schopenhauer, qui est un grand pessimiste, a réfléchi sur le bonheur. Pour lui, le bonheur dépend entièrement de ce qu'on est. Ce qui arrive à un homme dans la vie est moins important que la manière dont il le sent. Et voici ce qu'il écrit. Le même événement qui se présente d'une façon intéressante dans la tête d'un homme d'esprit n'offrirait plus, conçu par un cerveau plat et banal, qu'une scène insipide de la vie de tous les jours. Ceci se manifeste au plus haut degré dans plusieurs poésies, dont le fond repose évidemment sur une donnée réelle. Un homme commun, en les lisant, est capable d'envier au poète l'agréable aventure, au lieu de lui envier la puissante imagination qui, d'un événement passablement ordinaire, a su faire quelque chose d'aussi grand et d'aussi beau. Que le subjectif soit incomparablement plus essentiel à notre bonheur et à nos jouissances que l'objectif, cela se confirme en tout. La santé, par-dessus tout, l'emporte tellement sur les biens extérieurs qu'en vérité, un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. Ce qu'un homme est en soi-même, ce qui l'accompagne dans la solitude, et ce que nul ne saurait lui donner ni lui prendre, est évidemment plus essentiel pour son bonheur que tout ce qu'il peut posséder ou ce qu'il peut être aux yeux d'autrui. Un homme d'esprit, dans la solitude la plus absolue, trouve dans ses propres pensées et dans sa propre fantaisie de quoi se divertir agréablement. Tandis que l'être borné aura beau varier sans cesse les fêtes, les spectacles, les promenades et les amusements, il ne parviendra pas à écarter l'ennui qui le torture. Un bon caractère, modéré et doux, pourra être content dans l'indigence, pendant que toutes les richesses ne sauraient satisfaire un caractère avide, envieux et méchant. Quant à l'homme doué d'une individualité extraordinaire, il peut se passer de la plupart des jouissances auxquelles le monde aspire généralement. Celui qui est né avec un talent, pour un talent, trouve dans l'accomplissement de ce talent la plus belle existence.
Thank you.
certains partisans de la psychologie évolutionniste pensent que nous sommes plutôt programmés pour le malheur. Ces disciplines supposent que nous avons hérité de traits sélectionnés parce qu'ils augmenteraient nos chances de survie, diminuant en même temps nos chances d'être heureux. La crainte et l'anxiété, par exemple, favorisent la survie. Nos ancêtres vivaient dans des milieux hostiles et devaient faire face à un grand nombre de dangers. Se focaliser sur les expériences négatives, les mauvais souvenirs, est aussi un moyen de nous prémunir contre les dangers futurs. Cela nous aide à nous préserver des dangers, mais pas à être heureux. L'anxiété rend plus vigilant au problème. La peur favorise la fuite ou le combat. La colère intimide adversaires ou rivaux. La tristesse attire la compassion et solidarise le groupe, ajoute le psychothérapeute Christophe André. En somme, la nature a eu le souci de notre survie, mais pas celui de notre qualité de vie. Ceux qui affrontent la vie avec un sentiment de sécurité sont beaucoup plus heureux que ceux qui l'affrontent avec un sentiment de méfiance, écrit Bertrand Russell, prix Nobel de littérature, philosophe et mathématicien, dans son livre « La conquête du bonheur ». Selon lui, dans beaucoup de cas, un sentiment de sécurité aidera un homme à éviter des dangers auxquels un autre succomberait. Si vous vous promenez au-dessus d'un abîme ou sur une planche étroite, vous aurez certainement plus de chances de tomber si vous avez peur que si vous ne craignez rien. Et il en est de même en ce qui concerne les attitudes à l'égard de la vie. De toutes les formes de prudence, la prudence en amour est peut-être celle qui est la plus fatale au vrai bonheur. Il faut dire que même dans la vie des gens les plus favorisés par le sort, il y a des moments de détresse. Dans de telles occasions, se laisser sombrer dans le chagrin n'est pas un remède. La douleur est inévitable et on doit s'y attendre, mais on doit faire tout ce qui est possible pour la diminuer. Pas besoin d'essayer, comme le font quelques-uns, de retirer du malheur la dernière goutte de misère. Certaines conditions sont indispensables au bonheur de la majorité des hommes. la nourriture et l'abri, la santé, l'amour, le travail couronné de succès et le respect de son entourage. Pour certaines gens, avoir des enfants est également une source de bonheur. L'homme qui est capable d'une œuvre grandiose, qui marque de son empreinte les siècles futurs, peut satisfaire ce sentiment par son travail. Mais pour ceux qui ne possèdent pas de dons exceptionnels, le seul moyen de marquer leur passage ici-bas est d'avoir des enfants. Lorsque ces conditions viennent à manquer, seul l'homme exceptionnel peut réaliser son bonheur. Mais si ces conditions sont remplies ou peuvent être atteintes par un effort bien dirigé, l'homme qui se sent encore malheureux souffre d'un déséquilibre psychologique. Celui qui, une fois, a aperçu, même momentanément et brièvement, ce qui fait la grandeur de l'âme humaine, ne peut plus se permettre d'être mesquin, égoïste, troublé par des accidents banals, plein d'appréhension de ce que l'avenir peut lui réserver. L'homme capable de grandeur ouvrira toutes grandes les fenêtres de son esprit, laissant les vents y souffler librement de toutes les parties de l'univers. Il aura de lui-même et du monde une image aussi véridique que nos limites humaines le permettent. Prenant conscience de la petitesse de la vie humaine, il se rendra également compte que dans l'esprit de l'homme est concentré tout ce qui peut avoir une valeur dans l'univers connu de nous. Et il verra que celui dont l'esprit reflète le monde devient en un sens aussi grand que le monde. En se libérant des craintes qui obsèdent l'esclave des circonstances, il éprouvera une joie profonde et à travers toutes les vicissitudes de sa vie sociale, il restera au plus profond de lui-même un homme heureux.
Thank you.
la grande affaire et la seule qu'on doive avoir, c'est de vivre heureux, écrit Voltaire à Madame la présidente de Bernières. À l'instar de beaucoup d'écrivains, je pense que la cause principale du bonheur est l'amour. Non seulement l'amour est une source de joie, mais son absence est une source de douleur. L'amour enrichit les plaisirs les plus fins, tels que la musique, le lever du soleil sur les montagnes et la mer au clair de lune. Quelqu'un qui n'a jamais goûté la vue de belles choses en compagnie de l'être aimé n'a jamais pleinement ressenti le pouvoir magique de la vie. C'est également la vie de Maupassant, exprimée dans sa nouvelle intitulée « Le bonheur ». Comme souvent dans ses nouvelles, on y parle de l'amour, ce vieux sujet. Quelqu'un dit « J'ai connu dans cette île qui se dresse devant nous, la Corse, un exemple admirable d'un amour constant, d'un amour invraisemblablement heureux. Depuis un mois, j'errais à travers cette île magnifique, avec la sensation que j'étais au bout du monde. Point d'auberge, point de cabaret, point de route. Or, un soir, après 10 heures de marche, j'atteignis une petite demeure, toute seule, au fond d'un étroit vallon. La femme qui me reçut était vieille, sévère et propre. L'homme, assis sur une chaise de paille, se leva pour me saluer, puis se rassit sans dire un mot. Sa compagne me dit « Excusez-le, il est sourd maintenant. Il a 82 ans. » Elle parlait le français de France. Je fus surpris. Et tout d'un coup, un souvenir me revint. J'avais entendu qu'il y avait eu jadis un gros scandale dans la noble Lorraine. Une jeune fille belle et riche, Suzanne de Sirmont, avait été enlevée par un sous-officier de hussards du régiment que commandait son père. C'était un beau garçon, fils de paysan. Elle l'avait vu, remarqué, aimé. Mais comment avait-il pu s'entendre? Cela, on ne le sut jamais. Un soir, comme le soldat venait de finir son temps, il disparut avec elle. On les chercha, on ne les retrouva pas. On n'en eut jamais de nouvelles, et on la considérait comme morte. Et je la retrouvais ainsi dans ce sinistre vallon. Vous devez être Mademoiselle Suzanne. Elle fit oui de la tête. Des larmes tombaient de ses yeux. Alors, me montrant d'un regard le vieillard immobile sur le seuil de sa masure, elle me dit « C'est lui ». Et je compris qu'elle l'aimait toujours, qu'elle le voyait encore avec ses yeux séduits. Je demandais « Avez-vous été heureuse en moi ?» Elle répondit avec une voix qui venait du cœur « Oh oui, très heureuse. Il m'a rendue très heureuse. Je n'ai jamais rien regretté. » Je la contemplais, triste, surpris, émerveillée par la puissance de l'amour. Cette fille riche avait suivi cet homme, ce paysan. Elle était devenue elle-même une paysanne. Elle s'était faite à sa vie sans charme, sans luxe, sans délicatesse d'aucune sorte. Elle s'était pliée à ses habitudes simples. Elle l'aimait encore. Elle était devenue une femme de rustre, en bonnet, en jupe de toile. Elle mangeait dans un plat de terre sur une table de bois, assis sur une chaise de paille, une bouillie de choux et de pommes de terre au lard. Elle se couchait sur une paillasse à son côté. Elle n'avait jamais pensé à rien qu'à lui. Elle n'avait regretté ni les parures, ni les étoffes, ni les élégances, ni la mollesse des sièges, ni la tiédeur parfumée des chambres enveloppées de tentures, ni la douceur des duvets où plongent les corps pour le repos. Elle n'avait eu jamais besoin que de lui. Pourvu qu'il fût là, elle ne désirait rien. Elle avait abandonné la vie, toute jeune, et le monde, et ce qu'il avait élevé, aimé. Elle était venue seule avec lui en ce sauvage ravin. Et il avait été tout pour elle, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on attend sans cesse, tout ce qu'on espère sans fin. Il avait empli de bonheur son existence, d'un bout à l'autre. Elle n'aurait pas pu être plus heureuse. Et toute la nuit, je pensais à cette étrange et simple aventure, à ce bonheur si complet, fait de si peu. C'était une chanson folklorique albanaise, Bukuroshe Lales, interprétée par Elina Duni, qui se trouve au studio avec nous. Et après tant de considérations de différents auteurs, j'aimerais terminer cette émission par un conte africain qui s'intitule « Le secret du bonheur ». Un enfant demande à son père « Dis papa, quel est le secret pour être heureux ?» Alors le père demande à son fils de le suivre. Ils sortent de la maison, le père sur leur vieil âne et le fils à pied. Et les gens du village de dire « Mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils d'aller à pied !»« Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison !» dit le père. Le lendemain, ils sortent de nouveau, le père ayant installé son fils sur l'âne et lui marchant à côté. Les gens du village dirent alors « Quel fils indigne qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied !»« Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison !» Le jour suivant, ils s'installent tous les deux sur l'âne avant de quitter la maison. Les villageois commentèrent en disant « Ils ne respectent pas leur bête à la surcharger ainsi. Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison. » Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires, l'âne trottinant derrière eux. Cette fois, les gens du village y trouvèrent encore à redire « Voilà qu'ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant. » C'est le monde à l'envers. Tu as entendu, mon fils ? Rentrons à la maison. » Arrivés à la maison, le père dit à son fils « Tu me demandais l'autre jour le secret du bonheur. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire. Fais ce qui te plaît et tu seras heureux. »
C'était Florilège des Sentiments, une émission proposée par Bessam Iftiou avec la musicienne et chanteuse Elina Douni, prise de son et réalisation Bastien Meucli. Et si vous avez aimé cette émission, vous pouvez retrouver en vidéo la chanson de Brassens, notamment interprétée par Elina Douni. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site de l'émission. Il est 13h sur Espace 2, les informations.